Bonjour, je suis Lucas Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. Les crises sont souvent le produit d'un excès de confiance dans le système économique et financier, nous dit l'économiste Carmen Reinhardt. Dans une étude intitulée « Causes of Financial Crisis, Past and Present » et réalisée avec Ken Rogoff, elle explique que les dirigeants tendent à négliger les signes avant-coureurs de difficultés lorsque la conjoncture est favorable. Cette confiance, doublée de la conviction que le système économique a été apprivoisé, peut avoir des résultats économiques désastreux pour un pays. C'est ce que Reinhardt appelle le syndrome du « mais cette fois-ci, c'est différent ». Nous nous sommes entretenus avec elle. D'emblée, elle nous signale que ce phénomène n'a rien de nouveau.
Notamment durant les périodes d'expansion, lorsque la croissance économique est bonne, que les marchés boursiers et immobiliers sont florissants, que la confiance des consommateurs est au beau fixe, tout le monde finit par être persuadé, et je dis bien tout le monde, pas simplement les gouvernants, que les choses peuvent durer, que cela peut durer indéfiniment. Comme si, d'une certaine manière, les vieux principes n'avaient plus cours. Autrement dit, vous ne cessez de vous endetter, mais vous ne vous inquiétez pas pour autant, car vous estimez que ces principes ne vous concernent pas, et en tout cas, pas les États-Unis. On a beaucoup parlé de la titrisation des crédits hypothécaires, expliqué qu'elle a aidé les institutions financières à regrouper, puis à diffuser les risques. On vivait alors dans ce qu'il était convenu d'appeler la grande modération. Le cycle conjoncturel avait été apprivoisé. Bref, les arguments ne manquaient pas pour expliquer pourquoi nous vivions désormais dans un monde différent.
Pensez-vous que cela vaut également pour les pays en développement?
Certainement. On peut trouver des exemples un peu partout dans le monde émergent. Aujourd'hui, par exemple, on s'interroge beaucoup sur la Chine. Dans ce pays, les prix réels de l'immobilier ont augmenté, bien plus vite qu'ils ne l'avaient fait aux États-Unis ou en Europe. En Chine, le ratio crédit-PIB a progressé, plus que dans n'importe quel autre pays émergent durant les 6 dernières années. Or, chaque fois que vous demandez s'il n'y a pas de risque de crise bancaire ou de crise financière, on vous dit invariablement que cette fois-ci, la situation est différente. Nous sommes donc en présence d'un phénomène universel qui ne connaît pas de frontières.
Il est généralement admis que la liberté des mouvements des capitaux est génératrice de croissance. Or, d'après vos travaux, il semblerait qu'il y ait une corrélation entre la mobilité grandissante des capitaux et l'incidence des crises bancaires. Comment expliquez-vous cela?
Financial liberalization indeed helps predict.
La libéralisation financière permet effectivement de prédire les crises financières et les crises monétaires. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, la libéralisation financière va généralement de pair avec un accès plus facile au crédit. En outre, elle permet aux sociétés financières de prendre plus de risques. Mélanger les deux, plus de crédits et plus de risques, ajoutez à cela une supervision peu rigoureuse et cela vous donne une explosion de créances improductives.
Pour expliquer les crises, on insiste généralement sur les causes et les origines, mais vous utilisez la notion de mécanisme amplificateur, dont vous avez d'ailleurs abondamment expliqué les effets sur la crise. Que sont-ils?
Les amplificateurs ne sont pas en fait à l'origine des cycles. Ils ne les déclenchent pas. En revanche, ils font que la nappe d'essence se propage et lorsque surgit l'étincelle, l'incendie est beaucoup plus vaste. Les exemples ne manquent pas. S'il y a plus de crédits et que les institutions financières prennent plus de risques, vous avez intérêt à avoir une bonne supervision. Il faut une réglementation plus attentive. Bien souvent, soit la supervision est insuffisante, voire inexistante, ou la réglementation elle-même est procyclique. Prenez la réglementation financière liée aux notes de crédit, et notamment les notes souveraines. Durant les années fastes, toutes les notes étaient en hausse et donc tout le monde avait d'autant plus accès au crédit. Donc les amplificateurs sont ces dispositifs institutionnels, ces pratiques qui font, comme leur nom l'indique, que l'expansion parte en flèche ou que la contraction parte en vrille.
Il y a une chose qui me frappe particulièrement dans vos travaux. Vous dites que si une crise bancaire est mal gérée, elle débouche souvent sur une faillite de l'État. Nous voyons qu'en Europe, le risque existe. Les États-Unis seront-ils les prochains sur la liste?
Je dirais qu'ils suivent, mais dans quelle direction? C'est ce qui est préoccupant. Il n'y a rien de mécanique lorsque l'on tente d'expliquer pourquoi une crise financière se transforme souvent en crise budgétaire. En général, durant une crise financière, l'activité économique implose et donc les revenus s'effondrent. Cela ne fait donc qu'empirer la situation budgétaire, toute autre chose étant égale par ailleurs. Qui plus est, l'État finit souvent par prendre en charge des dettes privées, comme cela a été le cas en Irlande. Ici aussi, aux États-Unis, l'État a repris sur son bilan Fannie et Freddie, les géants du crédit immobilier. Autrement dit, pour toutes ces raisons, parmi tant d'autres, la situation budgétaire peut gravement se détériorer. Mais dans le cas des États-Unis, je ne crois pas que nous soyons encore parvenus à cette phase ultime.
C'était Carmen Reinhard, Senior Fellow au Peterson Institute of International Economics et co-auteur du Occupy Handbook. C'était Carmen Reinhard, Senior Fellow au Peterson Institute for International Economics et co-auteur du Occupy Handbook. Et pour écouter d'autres podcasts, connectez-vous au www.imf.org/lespodcasts.